Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue et merci d'être à l'écoute des Radios Vatican. Dans l'actualité de l'Église, dès cette nouvelle édition de notre programme, nous vous parlerons notamment de l'intention du pape pour ce mois d'août, actualité que nous compléterons avec les nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Pour ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous nous rendrons au Mali, en Tunisie, au Soudan du Sud, entre autres. À toutes et à tous, bienvenue à l'écoute des Radios Vatican.
Radio Vatican, France-Afrique, Camille Moukosso.
La vidéo qui diffuse l'intention de prière que le Saint-Père confie à toute l'Église à travers les réseaux mondiaux de prière du pape vient de paraître pour le mois d'août. Le Saint-Père partage en profondeur sa réflexion sur la situation de l'Église, sa vocation, son identité et il appelle à réformer à partir d'un discernement de la volonté des dieux dans notre vie quotidienne. Pour François, en ces temps des crises et des difficultés, l'Église a besoin d'une réforme qui doit commencer par la réforme de nous-mêmes à la lumière de l'Évangile. Comme il est précisé dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage d'y rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. L'archevêque de Kasama et président de la conférence épiscopale zambienne, Mgr Ignatius Chama, a appelé le dimanche dernier tous les politiciens et les partisans à s'abstenir de toute forme de violence pour montrer leur puissance politique avant, pendant ou après les élections générales prévues la semaine prochaine. En tant qu'Église, a-t-il déclaré, nous croyons fermement que toutes les parties prenantes du cycle électoral doivent démontrer leur engagement en faveur de la paix en s'abstenant de recourir à la violence, à l'intimidation et à la force pour atteindre leurs objectifs. En Zambie, les tensions ont augmenté ces dernières semaines alors que les partisans du président Edgar Lungu, du Front Patriotique, le parti au pouvoir, et ceux du chef du parti Uni pour le développement national, Hakainde Hichilema, s'affrontent dans ce qui semble être une compétition serré avant les élections du 12 août prochain. Des poches de violence ont été signalées dans la capitale du pays ainsi que dans les provinces du nord et du sud où de partisans de deux partis politiques se seraient battus à l'aide d'armes blanches, de machettes, des haches et d'autres objets. Dans son message, Mgr Chama a déclaré que les Zambiens devraient adopter les vertus d'humilité, de douceur et de patience pour parvenir à la paix dans le pays. Les évêques membres de la conférence épiscopale de Madagascar ont rappelé au président André Rajoline que l'Église et ses pasteurs existent non pas pour s'engager dans la politique, mais pour offrir un soutien spirituel à tous les membres de la société, y compris les dirigeants politiques, pour le bien-être du pays. Le message des évêques malgaches fait suite à la détention d'un certain Paul Rafanororana, lié à l'assassinat raté du président malgache et qui prétend être un conseiller à Mgr Odomari Rassen Razana Kolona, archevêque d'Antananarivo. L'Église n'est pas impliquée dans la politique et ne soutient aucun candidat au poste de Premier ministre, contrairement à ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, ont déclaré les membres de la conférence épiscopale de Madagascar au président André Rajoline lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 juillet dernier. Dans leur message, lu par le président de la conférence épiscopale malgache, le cardinal Désiré Ntsararazana, le prélat malgache, précise que le rôle de l'Église est d'offrir un soutien spirituel, accompagné des conseils aux dirigeants sur la bonne conduite à adopter pour assurer la paix sociale et la stabilité de la nation. En Afrique du Sud, 500 000 élèves ont abandonné l'école à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. La sonnette d'alarme a été tirée par l'Institut National Catholique pour l'Éducation, qui dans une note s'est dit préoccupé par les données recueillies desquelles il ressort également que seuls 50 à 70% des élèves encore inscrits ont accès à l'éducation. Voilà pourquoi l'Institut National Catholique pour l'Éducation avertit les parents qu'il est de leur responsabilité de veiller à ce que leurs enfants aient la possibilité de recevoir une éducation des qualités. Dans le respect total des mesures barrières contre la pandémie du nouveau coronavirus, toutes les familles sud-africaines sont donc invitées à laisser leurs enfants suivre les cours, surtout parce que le risque de contagion pour eux est réduit. Le silence n'est plus d'or au Nigeria, c'est l'exhortation faite par Mgr Wilfried Anangbe à tous les fidèles chrétiens nigérians pour dénoncer les injustices sans tenir compte des personnes offensées. L'évêque de Makurdi au Nigeria s'exprimait ainsi lors d'un atelier destiné aux professionnels catholiques de son siège épiscopal le vendredi 30 juillet dernier, faisant remarquer que si les gouvernements du Nigeria considèrent la critique comme de la haine, il est particulièrement important que les leaders religieux s'expriment car ils sont censés corriger les injustices. Justice. L'Église défend la justice et la vérité, a réitéré Mgr Anangbe, ajoutant que lorsque les dirigeants de l'Église prennent la parole, c'est pour corriger les injustices. Ceux qui pensent que nous détestons le président Buhari chaque fois que nous nous plaignons de l'insécurité se trompent. Nous ne faisons que lui rappeler ses promesses des campagnes et les serments qu'il a prêtés pour protéger les Nigérians, a souligné Mgr Anangbe. Direction République démocratique du Congo, où notre correspondant local nous rend compte de la profession religieuse et jubilée d'argent chez les sœurs salésiennes de la Visitation.
Deux sœurs salésiennes de la Visitation, Alphonsine Makila et Vitaline Pumbulu, ont prononcé leur vœu perpétuel de religion le dimanche 1er août dans l'église paroissiale Notre-Dame de la Paix de Kenge, dans la province du Kwango, entre les mains des sœurs Angélique Wolang. La supérieure provinciale d'Afrique a reçu peu avant les premiers vœux des novices Dorina Somo et Jacqueline Mouke. Deux sœurs aînées, Rosette Milongo et Joséphine Mafuta, ont montré aux nouvelles professes le chemin de la persévérance. Rosette Milongo et Joséphine Mafuta célébraient leur jubilé d'argent, les 25 ans de vie consacrée. L'évêque de Kenge, Mgr Jean-Pierre Kwambamba, a présidé l'Eucharistie. L'évêque a exhorté les religieuses et l'assemblée à célébrer, à reconnaître d'abord la miséricorde de Dieu qui appelle.
C'est le mystère de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et donc, nous avons à lui dire merci, à lui rendre grâce pour ce choix, pour sa miséricorde, pour son amour.
Mgr Kwambamba a aussi souhaité que les sœurs salésiennes de la Visitation ouvrent de nouvelles communautés dans son diocèse. Souhait auquel a répondu sœur Angélique Wolang, supérieure provinciale des sœurs salésiennes pour le Bénin et la République démocratique du Congo.
L'évêque nous lance un défi, c'est vrai. Si l'évêque construit une maison, qui l'équipe, les salésiennes seront prêtes.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Le comité ad hoc pour la création de la commission permanente des concertations et du dialogue social de l'éducation catholique des Côte d'Ivoire a terminé le vendredi dernier au centre Béthanie des Monts les travaux de réflexion pour la mise en place de cet outil de communication. Les détails de notre correspondant local.
La commission permanente de concertation et de dialogue social de l'éducation catholique du Côte d'Ivoire est une exigence de la législation du travail et elle se veut être un organe bipartite de veille, de concertation, de dialogue et de réflexion permanent entre les employeurs incluant la diocèse, les congrégations et autres types de fondateurs d'écoles catholiques et les partenaires sociaux clés, notamment les syndicats représentatifs de l'éducation catholique sur des questions de toute nature en rapport avec le monde du travail dans le but d'y renforcer la cohésion sociale au sein de la dite institution. Les travaux de réflexion étant ainsi achevés, la dernière étape reviendra selon le président de ce comité ad hoc, Indrain Beugue-Raymond,
au président du conseil d'administration de l'association nationale, va prendre une décision pour créer cette commission permanente. Une fois que c'est fait, ces tests-là seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Et parce qu'il faudrait qu'on ait le sentiment que tout le monde a adhéré à l'idée, tout le monde est d'accord.
Dans un passé récent, le secteur était secoué par des crises sociales intempestives nées généralement d'absence d'un cadre crédible de concertation des dialogues entre employeurs et travailleurs de l'éducation catholique. Ce cadre en cours de mise en place semble être la formule idéale pour gérer de manière participative, active et collégiale les problèmes sociaux de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire, de sorte à créer un environnement beaucoup plus serein et paisible en vue de redorer l'image de l'école catholique. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a fait état de son inquiétude mardi sur la situation en Tunisie, tout en réitérant son offre d'assistance lors d'une conversation téléphonique avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Gherandi. Madame Bachelet a expliqué au ministre qu'elle suit la situation de la Tunisie de près et que ses services sont là pour aider si les pays devraient faire la demande. Toujours au sujet de la Tunisie, la situation sanitaire liée à la COVID-19 s'améliore légèrement, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé, OMS, tout en appelant le gouvernement à accélérer sa campagne de vaccination. Le même lundi, le ministère de la Santé tunisien avait annoncé le lancement d'une campagne de vaccination dans plusieurs régions. Le premier ministre des transitions malien Kolala Maïga a assuré lundi que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Le calendrier des élections générales a déjà été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu, a soutenu M. Maïga devant le Conseil national de transition. En République démocratique du Congo, au moins 30 personnes sont mortes calcinées dans la collision d'un camion transportant du carburant et d'un bus sur l'une des principales routes de ravitaillement de Kinshasa, la capitale, dans la nuit de samedi à dimanche, à une dizaine de kilomètres du pont Kwango, a déclaré lundi la capitaine Antoine Pouloulou, chef de la police des circulations routières de la province du Kwango. Rendons-nous au Soudan du Sud, où le nouveau Parlement a prêté serment lundi, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018, qui a mis fin à 5 ans de guerre civile. Au total, 888 parlementaires issus du parti présidentiel et d'anciens fonctions rebelles signataires de l'accord ont participé à une cérémonie à Juba, la capitale.
Radio Vatican, France-Afrique, Camille Moukoso.
Direction Djibouti, où la vie reprenait son cours normal lundi après des violences qui ont impliqué des Issa et des Afar, les deux grandes communautés de ce pays de la Corne d'Afrique. Ces violences, au cours desquelles la police est intervenue, ont entraîné dimanche la mort d'au moins 3 personnes. Selon des témoins, les violences ont commencé en début d'après-midi dimanche à Warabalei, où des maisons Issa ont été incendiées et se sont ensuite étendues à d'autres quartiers. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a transmis la semaine dernière au chef d'État Alassane Ouattara une liste des 110 détenus, dont certains sont emprisonnés depuis la crise de 2010-2011, a insisté lundi pour que ce prisonnier, qu'il qualifie de politique, soit libéré. Notre combat, c'est de les sortir de la prison. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération de tous les prisonniers d'opinion, a lancé M. Gbagbo devant une centaine d'épouses de ces détenus qu'il recevait à Abidjan.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre magazine sur l'économie avec Françoise Niamien.
Notre magazine sur l'économie se focalise aujourd'hui sur le projet de la Banque mondiale axé sur le capital humain que les ministres des Finances et de la Planification de 81 pays participants ont voulu envoyer lors de leur dernier conclave ministériel. Les investissements incluent dans la santé, le développement de la petite enfance, l'apprentissage et l'autonomisation économique des femmes peuvent contribuer à une reprise sans exclus, résiliente et durable. Tel est le message clair de la Banque mondiale sur le capital humain 2021 qui fait remarquer que les fermetures d'écoles résultant de la pandémie de COVID-19 et les risques accrus de déscolarisation ont érodé les connaissances et les compétences de toute une génération d'élèves, en particulier ceux issus de familles pauvres et vulnérables. Selon les prévisions, le taux de pauvreté des apprentissages devrait passer de 53 à 63% dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et dans le monde, au moins 24 millions d'enfants, depuis le pré-primaire jusqu'au supérieur, pourraient ne jamais retourner en classe. Cette situation combinée à la déqualification professionnelle causée par le chômage et le sous-emploi prolongé affectera probablement la productivité et les revenus futurs. En outre, la pandémie a exacerbé les inégalités. Les femmes sont plus durement touchées par le chômage et l'accroissement des tâches domestiques et elles sont victimes de la hausse des violences de genre, des grossesses non désirées et de la mortalité maternelle. il est aujourd'hui plus qu'urgent de garantir l'adéquation, l'efficacité et la pérennité des dépenses publiques en faveur du capital humain, car sans intervention décisive, les séquelles du choc de la COVID-19 sur le capital humain et la productivité future pourraient devenir permanentes. Tout l'enjeu consiste à établir des priorités, à dépenser les fonds de manière à obtenir de meilleurs résultats pour le capital humain et à garantir la disponibilité de ressources suffisantes. Le document d'orientation de la Banque mondiale « Investir dans le capital humain pour une reprise résiliente », le rôle des finances publiques a guidé les travaux du conclave pour susciter l'émergence d'idées et de solutions. Des investissements immédiats sont nécessaires pour limiter les dommages permanents et préparer le capital humain pour la relance économique. Avant toute chose, il faut rétablir la santé, protéger les jeunes enfants contre la malnutrition et d'autres menaces qui portent préjudice à leur développement, remettre les élèves à l'école pour rattraper le retard d'apprentissage et soutenir les opportunités d'emploi. Les processus budgétaires doivent prioriser les dépenses qui contribuent à l'accumulation et à l'utilisation du capital humain. La mobilisation de ressources pour financer ces priorités pourra impliquer de dégager des marges de manœuvre dans les budgets existants et de poursuivre des réformes économiquement rentables. Lorsque des ajustements sont nécessaires, les pays pourront déterminer les lignes budgétaires et à préserver impérativement afin d'assurer la continuité des services ayant des implications à long terme sur leur performance en matière de capital humain. La mobilisation des recettes intérieures peut contribuer à la réalisation de cet objectif. Six grands axes stratégiques peuvent aider les pays à accroître leurs recettes et à créer l'espace budgétaire nécessaire aux dépenses publiques, y compris pour le capital humain, élargir l'assiette fiscale, augmenter le taux d'imposition des contribuables à haut revenu, affecter et pérenniser certaines sources de financement en faveur du capital humain, instaurer des axes sur la consommation de produits nocifs pour la santé, offrir des incitations aux contribuables qui investissent dans le capital humain, et enfin, utiliser les taxes environnementales pour générer des co-bénéfices en matière de santé et de climat. De nombreux enseignements peuvent être tirés d'initiatives récentes. Depuis fin 2020, au moins 10 systèmes éducatifs à travers le monde participent à un programme visant à accélérer la réduction de la pauvreté des apprentissages. Ce programme est conçu pour démontrer qu'un engagement politique et financier fort, une conception solide des politiques et efforts constants sur les apprentissages des élèves peuvent accélérer les progrès des pays en matière de renforcement des acquis fondamentaux. Il permet de coordonner l'action des différents partenaires afin que des améliorations significatives des compétences fondamentales soient constatées dans les pays participants au cours des 3 à 5 prochaines années. Dans un premier temps, 10 pays ou entités infranationales participent au programme. Le Brésil, l'Équateur, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, le Niger, le Nigeria, le Pakistan, le Rwanda et la Sierra Leone. Autre exemple, en République de Corée, à Singapour et à Taïwan, des services de crise mis en place au cœur des instances gouvernementales ont mené une réponse coordonnée en s'appuyant sur des informations exhaustives et en temps réel. Une démarche de ce type sera essentiellement pour que les pays puissent engager la restauration du capital humain, une reprise verte et résiliente, car la lutte contre le changement climatique est aussi un défi multisectoriel et qui concerne de multiples instances.
Place à la rubrique sur l'œcuménisme et dialogue interreligieux avec Marie-Josée Muando-Boabualo.
Commençons notre rubrique sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux par le soutien du Conseil œcuménique des Églises à la déclaration des dirigeants de « Together to End Violence » par des actions visant à mettre fin à la violence contre les enfants. Le secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, le père Johann Sauka, fait partie des signataires de cette déclaration autour de 6 actions qui changent la donne pour mettre fin à la violence contre les enfants, publiée le 23 juillet. Dans le cadre de cet engagement en faveur des enfants, le Conseil œcuménique des Églises indique qu'un milliard d'enfants subissent des violences et des abus chaque année. Ce chiffre effarant a encore augmenté pendant la pandémie de COVID-19. Les services de prévention et de réponse à la violence ont été interrompus pour 1,8 milliard d'enfants vivant dans plus de 100 pays, note la déclaration. Les mesures prises pour contenir le virus, les difficultés économiques et le stress familial se sont combinées pour créer les conditions d'une tempête absolue pour les enfants susceptibles d'être témoins ou victimes d'abus physiques, émotionnels et sexuels, indique le message. Malgré les avantages de la connectivité numérique, l'usage croissant de l'Internet pour l'éducation, la socialisation et les jeux a considérablement augmenté l'exposition des enfants à ceux qui veulent leur nuire. Nous sommes à un moment critique pour les enfants du monde, note la déclaration. Si nous n'agissons pas de toute urgence, nous risquons de perdre une génération d'enfants en raison des effets à long terme de la violence et des abus qui compromettront leur sécurité, leur santé, leur éducation et leur développement après la fin de la pandémie. Ensemble, en tant que dirigeants d'organisations qui agissent pour mettre fin à la violence contre les enfants, nous exhortons les dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des communautés religieuses, des organisations multilatérales, de la société civile et des organismes sportifs à saisir l'occasion et à se faire les champions de ce programme dans leur pays, leurs organisations, leur réseau et leur communauté, exhorte le message. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité des enfants pendant la tourmente actuelle et travailler ensemble pour reconstruire un mieux, pour mettre fin à toutes les formes de violence, d'abus et d'exploitation des enfants. Le Conseil œcuménique des Églises et la Fédération luthérienne mondiale ont organisé récemment un webinaire commun intitulé « Arrêtons le trafic, mettons fin à la traite des êtres humains » qui s'est déroulé lors de la Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains le 30 juillet. Cette journée, qui est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme concernant le crime horrible qu'est la traite des êtres humains, permet également aux gouvernements, aux organisations d'inspiration religieuse et aux autres partenaires de réaffirmer leur détermination à mettre un terme à cette violation flagrante des droits de la personne. La discussion a mis en lumière la dimension de genre ainsi que ses conséquences sur les droits et la dignité des personnes touchées et de leurs familles. La COVID-19 a aggravé le problème. De plus en plus de jeunes tombent dans le piège de trafiquants qui prétendent leur offrir un emploi. Deuxième forme de criminalité organisée la plus répandue de la planète, la traite des êtres humains touche des milliers de familles à travers le monde, a déclaré la pasteure Nicole Ashwood, responsable du programme du Conseil œcuménique des Églises. Pourtant, les personnes qui en sont victimes sont invisibilisées aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Il est important que le Conseil œcuménique des Églises et la Fédération luthérienne mondiale mettent cette tragédie en lumière, car les coupables restent trop souvent impunis. Une sélection de 26 jeunes désignés comme stewards du Conseil œcuménique des Églises s'est réunie en ligne du 14 au 16 juin pour prendre part à une introduction aux fonctions de steward et à une formation œcuménique conçue pour construire une conscience du contexte, développer le sens du leadership et renforcer la solidarité mondiale, ainsi qu'à une introduction à leur participation aux prochaines grandes réunions du Conseil œcuménique des Églises. Un élément clé du programme est la formation œcuménique dans laquelle les stewards participent à une série de sessions et d'ateliers d'une semaine sur le mouvement œcuménique. Le secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, le père Johann Sauka, a salué les stewards comme la première génération à servir une réunion œcuménique dans le cyberespace.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que se renferme cette édition de notre programme qui vous a été présentée par Camille Moukosso. À toutes et à tous, merci de votre fidélité aux ondes des Radio Vatican. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.
Now we